religion du monde. Corinne Manjou.
Dans cette deuxième partie de Religion du Monde, nous allons revenir sur les états généraux de la bioéthique et notamment les aspects concernant les débuts de la vie. Les différentes techniques de l'assistance médicale à la procréation doivent-elles s'ouvrir aux célibataires et aux couples homosexuels? Doit-on ou non autoriser la pratique des mères porteuses, également dénommée gestation pour autrui? Pour en débattre, nous avons en ligne Véronique Margron, dominicaine, doyenne de la faculté de théologie d'Angers, auteure de plusieurs ouvrages, dont L'échec traversé, paru chez Desclés de Brouwer, et aussi Quand la Bible raconte nos histoires d'amour, paru aux éditions Fayard. Bonjour ma sœur.
Bonjour.
Toujours au téléphone, Sophia Strilrever, qui est bouddhiste, interprète du Dalai Lama, auteure d'une dizaine d'ouvrages, dont l'autobiographie spirituelle du Dalai Lama et un roman en préparation sur la question des mères porteuses. Bonjour madame.
Bonjour à vous.
Avec nous sur ce plateau, Myriam Segère, pédopsychiatre et psychanalyste, fondatrice de l'association La Cause des Bébés, auteure d'une quinzaine de livres, dont Des mots pour naître chez Gallimard et un collectif intitulé Les enfants d'aujourd'hui, paru chez Bayard. Bonjour madame.
Bonjour.
Tout d'abord, est-ce que l'on peut mettre sur le même plan tous les modes d'assistance à la procréation? Autrement dit, est-ce que le recours à une mère porteuse peut être assimilé à l'insémination artificielle ou même à l'insémination in vitro avec donneur?
Je crois que chaque mode d'assistance à la procréation correspond à une situation d'infertilité et on peut absolument pas les rendre équivalents. Entre une fécondation in vitro sans donneur et l'utilisation de la gestation pour autrui, il y a des mondes.
Alors Véronique Margron, quelle est la position de l'Église sur cette question ?
Sur la question de la gestation pour autrui, la position de l'Église est de prendre en considération l'ampleur des paramètres, disons, qui sont concernés, que ce soit la question de l'enfant, c'est-à-dire la question de la filiation, cet enfant va être l'enfant de qui, la question bien sûr de la gestation, la question de l'instrumentalisation du corps, de la donneuse, hein, donc avec le problème de la marchandisation du corps, bref, toutes choses qui font dire à l'Église que la gestation pour autrui n'est pas un mode de procréation médicalement assistée, puisque ce qui est médicalement assisté, c'est ce qui va concerner la civette, mais la réimplantation après la grossesse, elle n'est pas une grossesse qui concerne une grossesse médicalement assistée, en quelque sorte. Donc il y a un peu une façon d'induire sans doute le public un peu, je ne sais si c'est en erreur, mais en tout cas il y a une confusion des genres qui nous apparaît quand même très problématique. Donc la position de l'Église, des églises chrétiennes, hein, est une très forte réticence et une opposition à ce mode de procréation, tout en entendant la souffrance des femmes qui sont concernées et des couples qui sont concernés par l'infertilité, bien sûr.
Qu'en pensent les bouddhistes, Sophia Strilrever?
Alors c'est une question évidemment qui est au premier plan de la réflexion, notamment dans le domaine de l'éthique, et le Dalai Lama a pris position depuis plusieurs années sur ce sujet en responsabilisant les personnes pour que ils comprennent ce qui est engagé au fond dans la transmission de la vie. Dans la transmission de la vie, il y a non seulement les parents, le père et la mère, mais aussi l'enfant à naître, et l'idée c'est que au moment de la conception, on est trois, c'est-à-dire qu'il y a les parents et il y a également le courant de conscience de l'enfant qui va s'incarner dans un corps pour vivre une nouvelle existence. Et comme toujours dans le bouddhisme, on va mettre beaucoup l'accent sur la compassion. Et ici, la compassion, elle est entendue comme l'accueil de cette conscience qui cherche un support corporel, qui cherche à s'incarner de manière physique. Fondamentalement, donner la vie, c'est un acte de compassion de la part des parents vis-à-vis de cet enfant qui, lui, a besoin de ce corps pour vivre une nouvelle existence. Le principe étant aussi que la vie est sacrée, et là, cela concerne toutes les formes de vie, pas seulement d'ailleurs la vie humaine, mais toute vie animée, toute vie d'un être sensible est sacrée. Évidemment, a fortiori, la vie d'un être humain, puisque c'est cette vie qui doit lui permettre de poursuivre cette voie vers l'éveil. Donc, la transmission de la vie est vraiment au cœur de la réflexion éthique dans le bouddhisme, pour savoir dans quelles conditions il convient d'accueillir cette vie.
C'est-à-dire que pour les bouddhistes, la gestation pour autrui est regardée avec un peu plus d'indulgence que pour l'Église, par exemple.
Alors, toujours avec ce principe que la vie est sacrée, ensuite, on ne va pas donner des positions toutes faites ou non plus énoncer des comportements qui seraient reproductibles pour chacun. On va voir en fonction des situations. La dimension, encore une fois, de la compassion est centrale. Et évidemment, tout ce qui serait mère de substitution ou mère porteuse qui sont engagées dans des démarches mercantiles de la part de la femme qui porte l'enfant ou de la part du couple qui va demander à une mère de porter l'enfant, tout cela évidemment ne peut pas être justifié. En revanche, il va y avoir une écoute de la situation et surtout une responsabilisation des parents, une réflexion sur ce désir d'enfant et sur la façon de gérer une situation qui est une situation de stérilité et de savoir pourquoi il s'engage dans cette démarche. Alors on peut penser que si de part et d'autre il y a une volonté de donner la vie par amour et par compassion, cela peut être justifié, mais évidemment c'est encadré et il faut mettre précisément des limites à ce qui pourrait devenir des dérives.
Alors Myriam Ségère, la gestation pour autrui vécue comme un don, comme un geste de générosité est peut-être plus acceptable, non ?
Écoutez, pas pour moi en tout cas, car je pense qu'il faut un petit peu sortir des bons sentiments, de la générosité qui, sous son aspect très séduisant, va masquer autre chose, à savoir peut-être une forme de culpabilité. En tout cas, une culpabilité par rapport à la circulation d'argent qui est extrêmement importante dans ces histoires actuellement. Il y a beaucoup d'intermédiaires et beaucoup d'argent en circulation. Et d'autre part, par rapport à ce qu'on fait subir à l'enfant. Car pour moi, un enfant qui naît d'une gestation pour autrui est un enfant qui va être abandonné par la mère qui l'a conçu. Cet enfant, quand il naît, c'est pas ses gamètes qu'il va reconnaître, c'est-à-dire ce ne sont pas les gènes du père et de la mère commanditaires, du couple stérile en l'occurrence, mais c'est la mère qui l'a porté. C'est son odeur, c'est sa voix, c'est tout ce qui a transité par le corps de cette femme et qui l'a aidé à se développer et qui va avoir une importance non seulement sur ce qu'est l'enfant, mais aussi sur tout ce qu'il a emmagasiné pour devenir. Je veux dire par là qu'il a appris, il a mémorisé, y compris la langue maternelle, y compris le goût de la cuisine, toutes sortes de choses qu'on sait que le fœtus apprend et mémorise. Et dans le chaos de la naissance, quand il arrive au monde, ce qu'il va reconnaître, c'est toutes ces choses-là qu'il a apprises, qui sont pour lui des repères de ce que Françoise Dolto appelait la mêmeté d'être. En l'occurrence, ce qui permet à ce bébé, quand il naît, quand il arrive au monde, de se dire « Tiens, c'était moi, finalement c'est bizarre, mais c'est toujours moi », c'est quand on lui restaure des repères anténataux qu'il a pu mémoriser et qu'il connaît. Et c'est pour ça que les médecins mettent les bébés sur le ventre de leur mère à l'arrivée au monde, parce que ça les rassure. Ils vont tout naturellement se guider vers le sein et commencer à téter. Ce qui rassure, c'est la voix du père quand il était là pendant la grossesse, parce qu'ils ont mémorisé aussi. Il a parlé. Ce sont des repères rassurants. Et cette sécurité qu'on va lui fournir de cette manière, et qui va perdurer bien sûr après dans son développement, c'est ce qui lui permet de construire une forme de sécurité, de confiance en lui, qui sont les bases de ce que nous appelons, nous autres psychanalystes, le narcissisme primaire.
C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'abandon volontaire orchestré dès le départ qui est gênant pour vous, fondamentalement.
Tout à fait, parce que l'abandon existe. L'accouchement sous X, c'est légal en France, et ce sont des drames. Ce sont des drames humains auxquels on répond par l'adoption. Par contre, faire ce que j'ai appelé un abandon sur ordonnance, c'est-à-dire demander à des médecins de participer à la conception d'enfants qui vont être conçus pour être abandonnés et élevés par leurs parents génétiques, mais pas par la mère qui l'a fait grandir dans son ventre, je considère que c'est d'une violence, d'une barbarie extrême. Et je crois que nous avons une responsabilité terrible dans cette affaire, car à autoriser ce type de pratique, nous objectivons l'enfant. L'enfant devient l'objet des fantasmes, des désirs des adultes, un certain nombre d'adultes autour de lui. De la femme qui a besoin d'argent, donc qui va faire mère porteuse, du couple qui est en désir d'enfant, mais qui est infertile, des médecins, de toutes sortes de Jean. Et cet enfant objectivé, c'est la porte ouverte à l'objectivation de l'être humain. Donc la société a une responsabilité parce que l'objectivation de l'être humain, ça peut dégénérer jusqu'au génocide.
Alors, les femmes souffrant d'une malformation ou d'une absence d'utérus perçoivent le refus de la gestation pour autrui comme une injustice à leur égard, dans la mesure où elles sont laissées de côté dans le traitement de l'infertilité, justement, puisque les pouvoirs publics dépensent des fortunes pour celles qui n'ont pas d'ovocyte, mais rien pour elles. Est-ce que dans ce cas-là, leur demande n'est pas légitime tout de même ?
On peut comprendre leur demande, on peut tout à fait comprendre, accompagner leur souffrance. On ne peut pas donner une réponse à leur désir de se reproduire par un traitement médical. Donc la seule réponse, et c'est pas une réponse aussi satisfaisante pour ces personnes puisqu'elles ne transmettront pas leur patrimoine génétique, la seule réponse à leur désir de devenir parent, c'est l'adoption, c'est-à-dire la possibilité de devenir parent d'un enfant qui auront été conçu par d'autres et qui ne porteront pas leur gène.
Véronique Margrand, est-ce que la médecine peut ignorer la dimension spirituelle quand elle touche les problèmes de la vie, justement ? Autrement dit, l'éthique doit-elle se soumettre à la science, à votre avis ?
Il n'y a pas d'éthique sans science, hein. C'est-à-dire que, avant de réfléchir aux questions éthiques, il faut d'abord que les procédures soient scientifiques. On le sait bien dans le domaine de la bioéthique. Et là, déjà, comme le disait tout à fait bien Madame Ségère, et je suis tout à fait d'accord avec elle, hein, on voit bien que, d'un point de vue strictement scientifique, c'est loin d'être simple, puisque on mélange des opérations très scientifiques, la civette, avec quelque chose qui n'a rien de scientifique, qui est un transfert d'argent, qui est éventuellement la marchandisation du corps. Donc on est dans un cumul de genres. Donc je pense que ça, c'est la première donnée. La deuxième, c'est que si en effet l'éthique doit bien sûr entendre les avancées scientifiques, elle doit aussi entendre la dimension spirituelle. Mais la dimension spirituelle dans le christianisme, c'est une dimension très incarnée, très charnelle. Ça a à voir avec ce qui se passe dans nos entrailles. Autrement dit, c'est pas, si vous voulez, une sorte de dimension surannée, là, qui se rajouterait à la personne, mais ce qui est vraiment au contraire au plus intime d'elle-même. Et ici, la dimension spirituelle, la dimension transcendantale, transcendante, pourrions-nous dire, hein, c'est tout d'abord de considérer que l'enfant à naître, comme le corps de la femme, ne peuvent pas être considérés comme des objets que je peux manipuler au gré de mon désir ou au gré du désir de l'autre, quelle que soit, encore une fois, la réalité des souffrances des personnes. Il ne faut pas se tromper ici. Le problème, il n'est pas quant à la souffrance des personnes. Le problème, il est quant à notre réponse de société. Une société ne peut pas, et sans doute ne doit pas, répondre à toutes les souffrances existantes. Il y a malheureusement des souffrances qui sont inhérentes à l'existence. Alors plus nos sociétés peuvent y pallier, plus elles peuvent aider, très bien, mais elles ne peuvent le faire que dans des cadres, les cadres de ce qui apparaît comme relevant du bien commun, hein. Et là, il me semble qu'on sort du bien commun pour entrer dans peut-être comme ce qui est considéré comme étant le bien pour quelques-uns. Mais ce pour quelques-uns est au détriment d'autres, au détriment des femmes, mères porteuses, car évidemment ce sont, et on le voit bien là où c'est pratiqué, des femmes pauvres, dont on instrumentalise le corps, et ceci à répétition, parfois deux fois, trois fois, quatre fois, comme en Inde, et l'instrumentalisation du corps de l'enfant, car que se passe-t-il si l'enfant a un handicap, par exemple, s'il a une malformation, si donc tout ce processus amène à un avortement. Toutes ces questions-là font dire que nous ne sommes pas dans le bien commun qui peut être encadré par la loi.
Religion du monde. Corinne Manjou.
Alors, Michèle André, sénatrice du département du Puy-de-Dôme, ancienne vice-ministre socialiste des droits des femmes, est favorable à la légalisation de la pratique des mères porteuses. Je vous propose de l'écouter.
L'année dernière, au Sénat, j'ai présidé un groupe de travail tout à fait remarquable sur cette question spécifique. Et nos conclusions, après des mois d'audition et de réflexion, ont été qu'il était sans doute utile, arrivé au point où nous en sommes, de légaliser pour encadrer mieux. Notre travail était destiné à répondre aux questions d'infertilité. de certaines femmes, peu nombreuses certes, mais qui ont un utérus qui ne permet pas de porter un enfant et dont la santé donc ne permet pas de porter un enfant. Et c'est pour encadrer seulement cet aspect que nous souhaitons légaliser et donner un cadre plus strict.
Le désir d'enfant est régulièrement invoqué à l'appui de nouvelles revendications d'accès à la parentalité. On pourrait même ici parler de droit à l'enfant revendiqué par certains adultes. Est-ce à la société de répondre à ce désir d'enfant d'après vous ?
Non, mais je comprends complètement et je peux même vous dire que je suis toujours étonnée quand je vois des personnes juger sévèrement ce désir d'enfant. C'est naturel, moi je trouve que le désir d'enfant est naturel. Autrefois, nous pouvions faire des enfants ou non en fonction de relations sexuelles et de capacités physiques. Aujourd'hui, le grand progrès, c'est ça qui est remarquable, c'est l'arrivée de la procréation médicalement assistée qui permet, avec des garanties tout à fait scientifiques et sérieuses, de pallier à certaines défaillances, et c'est très bien.
Est-ce que la meilleure solution à tous ces problèmes d'infertilité ne serait pas l'adoption ? Dans ce cas, ce serait...
Nous avons eu hier justement un débat au Sénat sur cette question. Très peu d'enfants sont adoptables en France, et il faut s'en réjouir, ça veut dire que très peu sont abandonnés. Les effets ajoutés de la contraception, d'une interruption volontaire de grossesse médicalisée, font que les femmes qui ne veulent pas d'enfants aujourd'hui savent comment faire pour ne pas en avoir, et très peu d'enfants sont adoptables. Et au niveau international, beaucoup de pays maintenant ne veulent plus laisser partir dans des pays riches leurs enfants, et on peut les comprendre également.
Reconnaître la gestation pour autrui, c'est la banaliser. Est-ce qu'on peut aujourd'hui courir le risque de la banalisation de cette pratique, alors même qu'on n'en a pas encore mesuré toutes les conséquences ?
Mais pourquoi banaliser ? Il y a très peu de femmes, pour nous, au niveau de la difficulté de porter un enfant, qui sont des femmes qui relèveraient de cette technique. Donc il n'y a pas beaucoup de banalité quand il y a quelques centaines de personnes à peine. Je crois surtout que au moment où les pays légalisent autour de nous, la question du tourisme procréatif devient une interrogation pour la France.
Alors cette interrogation pour la France peut aller très loin parce qu'il est question de marchandisation, de chosification du corps de la femme, Myriam Ségère.
Effectivement, il faut se poser la question de ce qu'on demande à ces femmes qui sont en besoin d'argent, et c'est pour ça qu'elles font ça, bien qu'elles disent le faire par générosité, par compassion. Elles sont majoritairement dans une condition financière inférieure à celle du couple demandeur, hein, et ça dans tous les pays. Donc ces femmes qui se prêtent à ce type de choses, on leur demande de concevoir l'enfant, de faire grandir un enfant dans leur ventre sans s'y attacher, avec l'idée dans leur tête qu'elles vont s'en séparer à la naissance. C'est leur demander une gymnastique extrêmement particulière, car qu'est-ce que c'est que la vie d'un fœtus qui grandit dans le ventre d'une femme qui sait qu'elle ne va pas le garder ? Hein ? Quels sont leurs échanges et quelle est la gymnastique spirituelle qu'on demande à cette femme pour faire comme si elle n'avait pas un lien affectif extrêmement intense avec l'enfant qu'elle est en train de porter, au point de dire que ça ne va rien lui faire de s'en séparer. Ça ne va pas la bouleverser parce qu'elle a des bons sentiments envers un couple. D'abord, les bons sentiments dans le tourisme procréatif sont surtout assortis d'un bon chèque. Et ensuite, moi j'ai rencontré une femme. En France, on peut faire appel aux mères porteuses en contournant
la loi.
C'est interdit.
C'est interdit,
puni,
d'ailleurs.
Mais c'est possible. C'est possible, je l'ai vu. Hein. Je travaille en maternité, donc je l'ai croisée. Bon, la dernière que j'ai rencontrée dans cette position était arrivée, elle avait touché son chèque, hein, tout allait bien, jusqu'au moment où elle a accouché. Et à ce moment-là, elle a commencé à réaliser, à prendre conscience de la dénégation dans laquelle elle était jusque-là, et à considérer que cet enfant pouvait être le sien. Elle l'appelait. Cet enfant l'appelait. Hein ? Elle s'est effondrée. Elle s'est effondrée. Bon, c'était une femme de parole. Elle est partie au troisième jour de sa césarienne avec cette cicatrice, en laissant l'enfant, et dans un état, elle n'a cessé de me téléphoner par la suite pour m'expliquer qu'elle était dans un état lamentable. Je crois que ça, on raconte pas ça. Hein, on raconte pas assez à quel point c'est douloureux si on se laisse aller. Alors pour que ce soit pas trop douloureux, il faut qu'elle soit dans un processus extrêmement particulier qu'on appelle la dénégation, c'est-à-dire faire comme si ça leur faisait rien.
Alors, Sophia Strill-Grever, dans le bouddhisme, il y a une dimension réincarnation, vous en parliez tout à l'heure, mais il y a également cet esprit qui unit un être à son géniteur. Dans le cas de la gestation pour autrui, comment est-ce possible de gérer ce lien ?
Oui, alors évidemment, il y a toute la dimension psychologique qui constitue l'être humain et qui, dans ces liens tellement particuliers et tellement forts, tellement incarnés des parents et des enfants, vient compliquer la situation et rend difficile aussi, d'autant qu'on n'a pas vraiment de recul. Maintenant, il y a des témoignages très douloureux, mais il y en a eu aussi d'autres. Il semble que, dans certains cas, alors c'est peut-être des situations singulières, et il y ait eu un accompagnement de la mère de substitution, et ensuite que, justement, dans le but de ne pas couper la mémoire de l'enfant qui était né d'une femme et qui devient ensuite l'enfant des parents qui vont l'élever, il n'y a pas eu de rupture, et les parents et la mère porteuse ont travaillé ensemble de cette façon-là. Donc ça, c'est véritablement la situation idéale, parce que ça permet de part et d'autre de vivre cette séparation antinaturelle, mais de pallier la difficulté. Évidemment, on comprend bien que ce sont là des cas isolés. Maintenant, au niveau de la relation de l'enfant avec sa mère d'origine, bien sûr qu'il y a ce lien. Alors là, ça va s'expliquer en termes de karma, en termes de dette karmique. On entre dans d'autres considérations qui ne prennent pas en compte l'aspect psychologique, qui font prévaloir justement un autre rapport à l'existence, où les enfants sont considérés comme ce sont les enfants de la vie. C'est-à-dire que là, on a moins ce rapport aux parents, à la mère et au père, qu'à quelque chose de plus universel. Mais ça ne coupe en rien la dimension psychologique, et c'est pas forcément bien vécu. Ça dépend aussi dans quelle culture ça s'inscrit. Il y a des cultures qui vont favoriser cette prise en charge de l'enfant à l'intérieur d'une communauté qui n'est pas forcément sa communauté d'origine.
Alors, quoi qu'on dise, hein, cette pratique reste un commerce, puisqu'il y a échange, même si l'on préfère parler de dédommagement au lieu de vente et achat. Même encadré par une loi, ce marché reste un peu choquant, non ?
Ah, complètement, oui. Tout ce qui est la mercantilisation dans une démarche comme celle-là ne peut pas être justifié en aucune façon. Mais ce qui me paraît toujours important, c'est toujours d'accompagner d'une réflexion. C'est ce qui est fait à travers tous ces débats sur l'éthique et comment l'éthique accompagne ce processus. Parce que faire des lois, dire on doit pas, il faut, il ne faut pas, c'est pas ça qui va répondre à la demande, à la quête existentielle de quelqu'un. C'est bien aussi que la personne assume une décision et puisse aller prendre cette décision en toute connaissance de cause. Et là, ça implique après, là, à ce moment-là, un processus de réflexion sur sa motivation et sur ce que l'on recherche à travers cette pratique de mère de substitution. Et donc, à partir de là, il me semble que la décision est pleinement assumée, quelle qu'elle soit.
Alors, Véronique Bancran, nous arrivons à la fin de l'émission. Est-ce que la meilleure solution à tous ces problèmes, finalement, ce serait pas l'adoption ?
Je ne sais pas s'il y a une meilleure solution. Il y a des solutions singulières. Par contre, il me semble que la question de la maternité pour autrui est plutôt la plus mauvaise des solutions. C'est plutôt dans ce sens-là. Après, il y a des solutions. Je ne pense pas que toutes les personnes concernées puissent adopter, ni même veuillent adopter. Donc on sait bien qu'il n'y a pas de solution idéale, hein, et surtout pas l'adoption, qui est elle aussi un processus difficile. Pour reprendre juste d'un mot ce que disait la sénatrice, elle dit elle-même que ça concerne un tout petit nombre de femmes, de couples. Comment penser une loi pour un si petit nombre ? La loi, elle est faite pour le bien commun, pour la majorité. Donc qu'il faille trouver des façons de faire pour prendre en considération des souffrances individuelles, oui, mais pas par le biais d'une loi qui légalise une pratique dont on voit bien dans notre discussion, rien qu'entre nous là, combien elle soulève de questions et de difficultés face auxquelles nous n'avons pas de réponse. Donc vraiment, je pense que là, c'est se fourvoyer. Et puis la dernière chose, c'est qu'il me semble que on essaie de dire qu'en effet, il n'y aura pas de commerce parce qu'il y aurait un accord, mais on sait bien que c'est pas vrai. Nous essayons de faire comme si nous étions des êtres raisonnables, alors que la question du désir d'enfant met en jeu en nous des choses qui n'ont rien à voir avec seulement la raison, mais qui ont à voir avec nos passions, qui ont à voir avec nos peurs, qui ont à voir avec des peurs parfois très profondes, très enracinées. Et on fait comme si tout ça pouvait se régler en quelque sorte paisiblement, tranquillement, autour d'une table. Et ça, je pense que c'est un leurre que notre société parfois entretient beaucoup sur les questions de bioéthique. Il faut prendre en considération que nous sommes aussi des êtres passionnels et que, justement, mieux vaut ne pas trop venir dire que la loi pourrait résoudre un problème aussi difficile. pense qu'il faut vraiment considérer là que à la fois le bien de l'enfant à naître, vraiment, et la question de l'instrumentalisation du corps humain sont deux questions trop graves pour ouvrir cette porte-là.
Alors, Myriam Séger, ce sera le mot de la fin avec vous. Adopter un enfant, c'est l'accueillir pour son bien et non pour le bien des parents, finalement.
C'est pas si simple. Adopter un enfant, c'est toute une histoire. C'est accepter de devenir la famille de l'enfant des autres, ce qui n'est pas sans poser de problème autant à l'enfant, qui conserve une forme de loyauté à ses parents d'origine, que pour ses parents adoptifs, qui ne vont pas forcément se reconnaître dans cet enfant-là. Donc c'est quelque chose de très complexe, qui demande beaucoup de patience et d'indulgence, des deux côtés.
Voilà, merci mesdames, Sophia Strill-River, sœur Véronique Margron, merci à vous, Myriam Séger, merci pour toutes vos explications. C'est la fin de ce dossier de Religion du Monde, réalisé par Marie-Hélène Rollin, mise en onde par Cyril Etienne, au micro Corinne Manjou. Restez à l'écoute des programmes de RFI et à la semaine prochaine.